et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et RFI. Ce soir, je reçois Hakim El Karoui. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller en stratégie, essayiste, auteur et notamment de l'islam, une religion française aux éditions Gallimard, mais aussi de deux rapports pour l'Institut Montaigne qui avait fait beaucoup de bruit, le premier en septembre 2016, intitulé « Un islam français est possible », et le second en septembre 2018, intitulé celui-là « La fabrique de l'islamisme ». Dimanche, dans une interview à nos confrères du JDD, vous disiez, je vous cite, « La libération de la parole xénophobe est inquiétante, il y a en France un risque de Christchurch ». Ces attentats contre deux mosquées qui avaient fait 51 morts et 49 blessés le 15 mars en Nouvelle-Zélande, mais... ajoutiez-vous, je ne veux pas me désespérer. Hier, un homme de 84 ans a tenté de mettre le feu à la mosquée de Bayonne avant d'ouvrir le feu sur des fidèles. Est-ce que cette nouvelle vous a désespéré ?
Elle a continué de m'inquiéter. Elle m'a désespéré pour les victimes.
La question était au fond au sens littéral du terme. Est-ce que ça vous fait perdre l'espoir ?
Pas encore. Et c'est pour ça que je me bats. Non, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Et si on regarde, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une série d'attentats djihadistes extraordinairement violents, à la fois physiques et symboliques. Et on voit que la société française a tenu. Ça, il faut le rappeler toujours. Ce qu'on voit aussi, notamment depuis 2-3 ans, c'est qu'il y a des groupes d'ultra-droite qui s'organisent, où on trouve beaucoup d'anciens militaires, beaucoup d'anciens policiers. Les institutions militaires et la police ont du mal à l'admettre. Mais ça, c'est on le voit à chaque fois. C'est le cas de la personne dont on parle. Qui veulent, et ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ils ont une idéologie. Et c'est ça qui m'inquiète moi le plus. Parce que des gens qui sont fous, des gens qui sont tarés, pardonnez-moi du terme, etc. Ça existe. Des gens qui sont structurés idéologiquement, c'est beaucoup plus grave. Parce que l'idéologie donne de la puissance.
En l'occurrence, on ne sait pas s'il appartenait à un groupe. On sait qu'il a été candidat du Rassemblement National à l'époque du Front National à des élections locales et on sait qu'il a été militaire.
Oui, et on sait que des grands attentats contre des mosquées, ce qu'il y a eu, le dernier par exemple, Christchurch, la revendication, 40 ou 50 pages de revendication, au cœur de la revendication, Renaud Camus. Le concept du grand remplacement. Ce concept du grand remplacement que j'entends aujourd'hui dans les médias, dans les discours. Dans le discours d'Éric Zemmour, par exemple, dans le discours de Marion Maréchal Le Pen. Le camp djihadiste a une idéologie qui vient à la fois du Moyen-Âge et puis d'Al-Qaïda et de Daesh. Le camp de l'ultra-droite est en train de se doter d'une idéologie. Et pour moi, c'est ça le plus inquiétant. Et le fait que ce monsieur soit un ancien candidat du Front National, du Rassemblement National, n'est évidemment pas anodin. Ça ne veut pas dire que le Rassemblement National appelle au terrorisme.
Oui, parce que vous entendez l'argument qu'utilise le Rassemblement National en disant on ne peut pas dire pas d'amalgame dans un sens et en faire dans l'autre.
Mais je crois qu'il faut reconnaître le fait que le djihadisme est une idéologie, que l'islamisme est un projet idéologique alternatif au projet républicain. Il faut le dire. Et ce que j'entends aussi, c'est que des gens qui sont en train de s'armer, des gens qui sont en train de nourrir des discours de haine, après... Il ne faut pas qu'ils s'étonnent du passage à l'acte de certains.
Pour vous, il y a des responsabilités claires à pointer, c'est ce que vous faites.
Je ne dis pas que c'est la responsabilité du Rassemblement National. Ce que je vois,
c'est
que...
Non, mais d'un discours qui monte.
Il y a un discours et qui se structure, qui s'organise, avec des gens qui disent « on va prendre les armes ». Et ça, c'est extraordinairement inquiétant.
Vous faites aujourd'hui, parce que les musulmans de France expriment une très grande inquiétude, il y a eu plusieurs tribunes qui ont été publiées ces derniers jours, et vous faites, vous, un parallèle... entre ce qui se passe aujourd'hui en France et ce qui s'est passé dans les années 50 aux États-Unis avec le maccartisme où on faisait la chasse aux communistes. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une forme de commission maccarty pour faire la chasse aux musulmans ?
C'est pas l'ultra-droite qui fait ça. C'est les milieux, on va les appeler laïcars. Ceux qui, en fait, ne croient pas à l'insertion sereine et paisible de l'islam dans la République.
Ils sont nombreux, ceux-là, en France, bien au-delà de...
Ils sont beaucoup plus nombreux que l'ultra-droite. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on voit ? Je les vois d'ailleurs m'accuser. Ils jettent l'anathème. Ils disent, avec ce monsieur, j'ai créé une association, l'Association musulmane pour l'islam de France, dont l'objectif est de construire un système de financement ouvert et transparent avec de l'argent français, pour le réinvestir, comme le fait le consistoire central du judaïsme, dans la formation des imams, dans le salariat des imams, pour lutter contre les influences étrangères. Et qu'est-ce que disent ces gens-là? Et je déplore qu'il y ait par exemple Zineb El-Razoui, qui se présente comme une icône de la laïcité et de la liberté, qui dit, ben, en fait, on peut pas être...
De Charlie Hebdo.
On peut pas être français et musulman. Tous ceux qui veulent y travailler sont des collabos. Sont des frères musulmans. Accusés d'être frères musulmans, franchement, tout ça est grotesque. Il faut faire très attention à ça. McCarthy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu des communistes partout. Eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils voient des frères musulmans partout. Sans très bien savoir d'ailleurs ce que ça veut dire.
Y compris, dites-vous, pour disqualifier certaines personnalités.
Pour évidemment les
disqualifier. Tariq Oubrou, par exemple.
Tariq Oubrou a été frère musulman. Oui. Il le dit, il le reconnaît, d'une certaine manière, il le revendique. Mais il revendique aussi son trajet, son parcours religieux, personnel. Vous savez, il y a des gens qui ont été d'extrême gauche en France. Lionel Jospin, pour ne citer que lui, était trotskiste, lambertiste. Bon, quand il était Premier ministre, il n'était plus trotskiste et lambertiste. On a le droit de changer, même quand on est musulman.
Ouais. Alors, il y a à peu près 3 semaines, dans Le Monde, vous disiez, on peut agir contre l'islamisme, et vous décliniez un certain nombre de leviers d'action. D'abord, le président de la République doit s'adresser aux musulmans, ensuite faire évoluer la doctrine de prévention, troisième outil, le financement du culte, et enfin, aller au bout de la réflexion sur l'islamisme. On va revenir sur chacun de ces points. Et d'abord, la parole présidentielle. Aujourd'hui, il y a urgence, il est impératif qu'Emmanuel Macron s'exprime, qu'il s'adresse aux musulmans d'ailleurs, c'est ce que vous dites, pour recoudre les déchirures, les blessures.
Alors, je crois que quand on dit à Emmanuel Macron qu'il est impératif, qu'il fasse quelque chose, il ne le fait pas.
Mais vous le connaissez bien.
Je le connais depuis longtemps. Il est tout à fait autonome sur ces sujets-là. Je pense que c'est important qu'il parle. Probablement pas maintenant, parce que là on est dans l'émotion, mais avec un peu de recul, d'une certaine manière comme l'avait fait le président Chirac en 2004. Vous vous souvenez, la loi sur la laïcité, le président Chirac avait eu une allocution très solennelle pour expliquer ce qu'il voulait faire. La parole présidentielle, elle a un rôle. Elle dit qui est dans la nation. Et je pense que c'est important qu'il rappelle aujourd'hui, dans le moment de tension qui est le nôtre, que les musulmans de France, que les Français de confession musulmane, sont dans la nation. Et que l'État, il l'a dit d'ailleurs aujourd'hui, après l'attentat, l'État est là pour défendre tous les citoyens. Il est là aussi pour combattre ceux qui sont contre la République. Et il y en a chez les musulmans. C'est ceux qu'on appelle les islamistes. Il faut bien les séparer. Mais en même temps, pas nier qu'il y a des problèmes. Évidemment qu'il y a des problèmes.
Mais vous ne le niez pas. Vous dites
pas du tout.
Les islamistes aujourd'hui ne veulent pas prendre le pouvoir en France, ils veulent prendre le pouvoir sur les musulmans.
Et ils sont en train, en partie, d'y réussir.
Voilà, vous dites, ils le font avec un certain succès. Mais est-ce que, dans votre esprit, ils veulent seulement prendre le pouvoir sur les musulmans, ou est-ce que c'est une étape?
Non, c'est pas une étape. Pour une raison arithmétique. On est dans un système démocratique. Pour prendre le pouvoir, il faut avoir la majorité. Les musulmans, c'est 8-9% de la population française. Dans certaines communes, ils peuvent faire des accords avec des maires pour avoir qui une mosquée, qui une salle, etc. Il n'y a pas de liste communautaire. Les Républicains essayent de lancer un débat sur l'interdiction des listes communautaires. C'est extraordinairement compliqué en droit, parce qu'il y a un principe qui est un principe de liberté. Par ailleurs, il n'y en a pas qui existent. Par contre, ce qui existe, qui est à mon avis plus inquiétant, c'est l'entrisme dans un certain nombre de listes, dans un certain nombre de courants, au nom notamment de l'idéologie postcoloniale, d'un discours qui est à la fois un discours postcolonial et d'un discours qui est un discours islamiste ou néo-islamiste. Là, il y a un petit danger, il est très localisé. Les musulmans ne sont pas majoritaires en France. Les islamistes sont minoritaires chez les musulmans. Et Michel Houellebecq s'est trompé.
Ouais, avec son livre Soumission. On va revenir sur les points que j'évoquais. D'un mot d'abord, puisqu'on apprend à l'instant que le Sénat a voté l'interdiction des signes religieux pour les parents qui accompagnent les enfants en sortie scolaire. Bon, le texte ne passera pas à l'Assemblée nationale.
Ça fait plaisir.
Voilà. Mais comment vous qualifiez cette initiative? C'est déplacé. Alors évidemment, il y a eu le débat de savoir s'il fallait maintenir ou pas la proposition de loi aujourd'hui, au lendemain de cette attaque contre la mosquée de Bayonne. Mais sur le fond, est-ce qu'il est légitime de dire c'est du temps scolaire, donc laïcité absolue, ou est-ce que c'est une espèce d'intégrisme laïque?
Je pense que franchement, c'est un faux débat. On peut débattre théoriquement sur quel est le périmètre du temple républicain qu'est l'école, puisqu'on a sanctuarisé, sacralisé l'école, en disant l'école c'est la République, pas de compétition, pas de concurrence. Donc on veut aucun signe d'appartenance religieuse ou philosophique. C'était ça la loi de 2004. Est-ce que les mères voilées qui font des sorties scolaires sont des auxiliaires du service public d'éducation. Dans ce cas-là, elles ne sont pas soumises à l'obligation de neutralité. Mmh. Est-ce qu'elles sont membres du service public d'éducation ? Dans ce cas-là, elles sont soumises à l'obligation de neutralité. On peut débattre très longtemps. Pour moi, très sincèrement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est, ça c'est la conséquence. Le sujet, il est bien en amont. Le sujet, c'est comment on prévient. Comment on fait en sorte qu'une partie, une petite partie de la population musulmane française ne soit pas tentée par une forme de sécession. Toutes les femmes voilées ne sont pas des islamistes. La force de l'islamisme, c'est de réussir à s'imposer, à fixer la norme auprès de gens qui ne sont pas islamistes. Le voile, le halal d'une certaine manière, se sont développés comme des normes de pratique religieuse. Oui. C'est ça qu'il faut interroger. Et très sincèrement, c'est pas par la loi qu'on réussira. Parce que la loi, elle est laïque. La loi, elle respecte une chose, c'est la liberté de conscience. Oui. Les islamistes diront toujours « respectez notre liberté ». Le sujet, il faut plus de république, pas plus de laïcité, plus de république. Parce que le sujet, il est idéologique. C'est pas une question de séparation entre l'Église et l'État. Je finis. Le sujet, il est chez les musulmans.
Ouais. Mais on va en parler, parce que ouais. vous dites des choses qui sont un peu, à mon sens, un peu à contre-courant. C'est-à-dire, vous dites aux musulmans, on va y revenir, bougez-vous un peu, ouais. alors que parfois, il y a un discours qui consiste à dire c'est de l'islamisme, ça n'est pas l'islam, pourquoi serions-nous plus concernés ? Vous dites pas ça. Mais d'un mot sur le deuxième point, la doctrine de prévention, vous dites, il faut la faire évoluer. Le CFCM a dit aujourd'hui, on va précisément... mettre en place une commission qui sera chargée de définir les grands signes de radicalité, parce que ceux qui ont été présentés par Christophe Castaner ne les ont pas convaincus du tout. Est-ce que le CFCM est l'institution ad hoc pour trancher cette question ?
Alors d'abord, moi je suis très heureux que le CFCM se saisisse de ce sujet. Je pense qu'il est extraordinairement important que des musulmans, en l'occurrence une organisation qui veut représenter, si ce n'est les musulmans, en tout cas des lieux de culte, disent « c'est notre problème ». Parce que jusqu'à présent, ils disaient, c'est pas notre problème, nous sommes victimes, nous ne sommes pas responsables. Donc, c'est bien qu'ils s'en saisissent. Ensuite, est-ce que le CFCM, dans l'état qui est le sien aujourd'hui, peut avoir un impact positif ? Pardon, mais j'en doute. Il n'arrive pas à organiser des élections, parce qu'il y a très peu de mosquées qui sont prêtes à voter, en fait, tout simplement. Et il a un impact sur le terrain qui est très très faible. Donc, c'est bien d'aider les pouvoirs publics à définir les signes de radicalisation, mais... La radicalisation, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que les simples signes, comme d'habitude. Oui. Le sujet, c'est l'environnement idéologique qui est créé. Et c'est ça qu'il faut combattre.
Alors, l'un des points les plus importants, me semble-t-il, quand on vous lit dans ce papier du Monde, c'est le financement du culte. Avant toute chose, est-ce qu'on connaît aujourd'hui, en l'état actuel de la situation, la répartition ? Parce qu'on dit souvent, l'argent vient de l'étranger, mais pas seulement, il y a aussi le don des fidèles. Est-ce qu'on connaît la répartition entre les dons et ce qui vient de l'étranger ?
90% vient des dons.
Donc c'est relativement marginal, mais ça représente tout de même une emprise idéologique importante.
Alors, comment ça marche ? Pendant longtemps, on a dit, les musulmans sont pauvres, ils ne peuvent pas se financer, regardez, ils ne sont pas capables de construire des mosquées, ils prient dans des caves et dans des garages. Donc les pays étrangers venaient et disaient, nous allons vous aider. Et qui étaient les pays étrangers ? On fantasme beaucoup sur l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est pas eux.
Non, c'était l'Algérie.
C'est l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Ouais. Ils viennent, ils disent, on vous aide à construire la mosquée et on vous envoie un imam. Et au passage, on essaye de contrôler à la fois la mosquée, mais plus la communauté. Et c'est vrai notamment de la communauté turque. Le gouvernement turc utilise la religion à des fins politiques. On laisse faire. Moi, je pense qu'il y a une question de souveraineté. Ensuite, les différentes communautés locales se sont structurées. D'abord, les musulmans, contrairement à ce qu'on croit, se sont enrichis. Il y a une élite maintenant. Il y a une classe moyenne. Il y a des gens qui sont pieux. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a 200 à 300 millions de dons chaque année qui va au culte musulman. L'argent étranger, pour autant qu'on le connaisse, c'est 20 à 30 millions. Vous voyez, c'est 10%. Le sujet, c'est que l'argent qui va, comme ça, qui est donné localement, il ne va jamais nationalement pour structurer un système de formation des imams, un système de salariat des imams, un contre-discours face au discours salafiste sur les réseaux sociaux. Tout ça n'existe pas. C'était le rôle du CFCM. CFCM a échoué. On a besoin d'une autre organisation, notamment d'une organisation financière.
Mais alors, vous dites que l'État doit aller mettre un peu son nez aussi dans la manne du halal. Alors, disons qu'il y en a, vous dites explicitement, un certain privatise des profits massifs liés aux consommations islamiques.
Oui. Comment ça marche ? Je vais faire le parallèle avec le consistoire.
Gardez-vous 2 minutes pour parler de cet appel que vous faites aux musulmans en disant « bougez-vous ».
Chez les juifs, comment ça marche ? Le consistoire central. Il y a le kasher. Le kasher, ça ressemble au halal. Il y a une organisation, une autorité qui fait le kasher, qui certifie et qui collecte. Chez les musulmans, il y a 3 mosquées qui ont la possibilité de délivrer des cartes pour faire le halal. Souvent, elles certifient et ensuite elles collectent. Où va l'argent ? Dans les associations liées aux mosquées. Il n'y a aucun argent qui va au service de la collectivité nationale. Ça, c'est pas possible.
Alors, donc je le disais, vous interpellez d'une certaine manière et assez vigoureusement les musulmans de France, un peu à contre-courant, comme je le disais, de ce discours qui consiste à dire pourquoi les musulmans devraient se sentir plus concernés par l'islamisme ou le terrorisme, puisque ça n'est pas l'islam. Mais vous leur dites, je vais vous citer, allez dans les mosquées pour déloger les salafistes, organisez-vous pour le financement, allez dans les prisons pour combattre les discours radicaux et parlez aux jeunes pour leur transmettre l'islam, vous le dites pas, mais enfin, 3 petits points, le vrai, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Le vrai.
En tout cas.
Un autre.
Oui, oui.
Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est la responsabilité des Français de confession musulmane? Ils sont pas coupables. Ils sont en partie victimes de ce qui se passe. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut être responsable. Responsable, ça veut dire quoi? Responsable en tant que musulman, responsable en tant que citoyen. De quoi on parle? On parle de la montée des périls. On parle de la montée de la haine. On parle de la montée de la haine contre les musulmans, avec des impacts tout à fait tangibles. Le niveau de discrimination que connaissent les musulmans, il est extraordinairement important. Comment on le fait baisser? Comment la France a peur aujourd'hui? Comment on fait baisser la peur? En montrant que les Français de confession musulmane s'engagent sur le terrain, concrètement, opérationnellement, contre les djihadistes. Et ça, comment on fait? Il faut être présent dans les mosquées, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut aller dans les prisons, il faut convaincre que cette hydre islamiste dont parle le président de la République, qui est d'abord une hydre d'idées, de théologie, d'idéologie, il faut convaincre que ça, c'est une version dévoyée. Et le grand public, quand il regarde les musulmans, qu'il ne les entend pas, il se dit, mais peut-être qu'ils sont avec eux, peut-être qu'ils sont pas clairs. Donc il faut montrer par la mobilisation la différence qu'il y a. Et la meilleure façon de faire, c'est de combattre, d'être en première ligne. Donc je pense qu'on ne sortira par le haut de ce débat que si les Français de confession musulmane s'organisent, s'engagent et vont mener la bataille idéologique sur le terrain.
Ça va se produire tout ça?
Je pense que les attentats ont fait changer beaucoup de choses. Parce que avant les attentats, il y avait l'idée qui est compliquée en France. En France, on dit, votre religion, mettez-la de côté. Vous avez le droit. Mais on a envie d'en faire une affaire privée. Et puis on a dit aux musulmans, il faut condamner en tant que musulmans. Ils ont dit, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, il faut dépasser cette injonction en disant, vous y allez en tant que citoyen.
Merci. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour parler de tout ça. Merci à Hakim El Karoui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Mardi Politique. Bonne soirée à tous.